Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de e-Teachers. Et nous sommes le numéro, c'est pas bien joli, mais c'est le numéro 65. Salut Jeff, ça va mec?
Salut, salut à tous, bonne soirée, impeccable, ouais, impeccable. Numéro 65, t'es pas planté, c'est déjà pas mal.
Et c'est la première fois depuis le numéro 1 que je me plante pas de numéro. C'est quand même pas mal, il faut bien le dire.
C'est quand même,
Et
ouais, c'est vrai, c'est vrai.
voilà, le numéro 65, on est super content de vous retrouver. On est d'autant plus content que ce soir, nous avons deux fois d'affilée d'autres invités. Voilà, et en
Ouais.
plus, on va rester dans un peu la thématique de la dernière fois, à savoir le jeu. Voilà.
Dans le même esprit, ouais, tout à fait. Si vous voulez en tout cas réagir en direct, c'est toujours sur eteachers.fr/live ou sur la vidéo YouTube aussi, hein, où il y a un petit chat sur le côté. Vous pouvez à tout moment participer au débat. Juste un petit retour pour l'épisode de la semaine dernière où on a eu un petit commentaire de quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Jean de Papa à quoi tu joues, qu'on avait eu reçu
Ah, yes.
il y a un petit moment, mais qui nous parle bien sûr du jeu, qui nous dit que qui un petit message, qui nous dit que c'est vrai que la démocratisation de la pratique du jeu pédagogique n'est pas encore pour aujourd'hui. Il nous dit, il y a clairement une division entre les collègues, majoritairement ceux qui sont conscients des enjeux du numérique, qui ne demandent qu'à tester plein de nouveaux trucs, et d'autres qui m'ont déjà dit, on ne venait pas en cours pour s'amuser. Donc, il me dit que ça l'énerve profondément. Donc, c'est un peu dans la thématique de ce soir.
Ah ouais, putain, moi,
Hein?
ces gens-là, c'est le genre de prof que j'ai dû détester, quoi. Mais quelle horreur!
Donc voilà, c'est bien, son message tombe à pic pour ce soir.
Ouais.
Ensuite, voilà, bref, voilà, on va laisser les invités en tout cas se présenter. Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Tout à fait, voilà. Donc ce soir, on continue sous le symbole du jeu. On va plutôt parler cette fois, non pas de jeu sérieux, même si ça reste quand même un jeu sérieux, bien sûr. Exactement, d'Escape Game. Donc je pense que vous avez déjà certainement entendu parler des Escape Games. Donc on va laisser nos invités expliquer ce qu'est un Escape Game, bien sûr, et surtout en quoi on peut le transmettre et l'adapter dans le cadre de l'enseignement et de la formation. Voilà. Eh bien, bonsoir. Ah, présentez-vous, on va peut-être commencer par les dames, ma foi, hein. Ça sera
Bonsoir.
la moindre des choses.
Bonjour.
Bonsoir, moi je suis Julia Dumont, je suis professeure d'histoire-géographie au collège Robert Donat de Clichy-sous-Bois. Je suis référente numérique de mon établissement et je suis aussi à mi-temps MAD à l'atelier Canopée du 94.
Donc, est-ce que tu peux juste préciser ce que l'acronyme MAD, parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes dans les
Mise à
académies?
disposition, donc je suis mise
Ah,
à
d'accord.
disposition la moitié de mon temps à l'atelier Canopée pour la formation.
Super, très bien. Patrice, à toi.
Bah, bonsoir, donc Patrice Nadan, prof d'SVT à l'origine, puisque je partage mon temps à moitié entre la formation et le pôle numérique de l'Académie de Créteil, où je travaille encore pour l'instant au Médiafiche. J'ai mis le lien d'ailleurs dans le document.
Très bien,
Et nous
donc ces
travaillons tous les deux
liens-là,
au Médiafiche.
on pourra les mettre après dans les notes de l'émission. Super. Écoutez, donc nous ce soir, on a souhaité vous recevoir puisque vous proposez un concept de formation autour de l'escape game. Donc, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez un petit peu, avant peut-être même de définir le vôtre, définir ce qu'est un escape game et ce que vous pouvez nous en dire? Juliette, peut-être?
Julia.
Oui, ok.
Julia, pardon.
Donc, un escape game, à la base, c'est un jeu
J'ai des
en
coupures.
réel, in situ, avec des participants qui sont enfermés dans une pièce pour un temps donné et qui doivent fouiller la pièce à la recherche de départs d'énigmes qu'ils doivent résoudre dans le temps imparti pour pouvoir en sortir. Voilà, tout simplement.
Très bien, Patrice, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça?
Alors j'avoue que j'ai beaucoup de coupures, donc j'ai pas eu entendu tout, mais j'imagine qu'elle a donné la bonne définition de l'escape game, donc je lui fais confiance. La seule différence, mais là on va peut-être amorcer un petit peu notre escape game à nous, mais la seule différence c'est que nous on n'enferme pas particulièrement les gens, puisque au niveau sécurité on n'a pas le droit. Mais généralement les escape games ça se fait dans une ambiance avec un décor assez angoissant, on va dire, pour justement mettre les gens en condition d'angoisse, quoi.
D'accord. Donc vous allez nous angoisser. Très bien. Non, pas vous, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse du projet? Comment est-ce que vous en êtes venu à envisager ce projet d'Escape Game? Est-ce que c'est parce que vous aviez chacun ça dans votre tête et vous êtes rencontrés pour comme ça au hasard? Est-ce que c'est une commande peut-être de l'institution? Comment vous en êtes venu à réfléchir à ce concept?
Bon, à la base, en fait, c'est parti d'une idée de moi, parce que Patrice, qui travaillait sur le programme de formation des commissions numériques, m'avait dit que chaque référent numérique d'établissement, donc j'étais concernée puisque moi-même je suis référente, devait organiser une journée de formation dans son établissement pour former des collègues au numérique. Et moi, ça m'a un petit peu inquiétée parce que j'ai une partie de mes collègues qui sont assez réfractaires au numérique. Et l'idée m'est venue lorsque un été, en vacances avec des amis, on a fait un escape game pour l'anniversaire d'une copine, qu'on s'est pris au jeu, qu'on en a parlé des heures encore après avoir fini l'escape game en question à Montpellier. Et je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. On peut peut-être l'adapter pour une formation numérique et puis pour parler un petit peu, initier un petit peu au numérique en passant par le biais du jeu, pour que ce soit plus agréable pour les collègues qui n'aiment pas trop ce genre de formation numérique et qui y vont un petit peu à reculons d'habitude.
Et je continue,
Donc
du coup.
j'ai donné l'idée à Patrice, pardon. J'ai donné l'idée à Patrice, qui ensuite, lui, bah, va vous expliquer ce qu'il en a fait.
Alors, la première fois que Julien m'en a parlé, bon, comme c'était son petit truc à elle, j'ai dit ok, bon, sans plus, quoi, ça m'est passé un petit peu au-dessus, je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Et puis, bah, travaillant au niveau du pôle numérique, il y a eu une commande à un moment où c'était, on devait former, justement, on devait programmer une formation pour les référents numériques de l'académie. Et là, moi, je voulais sortir un petit peu du cadre du transversal et du frontal, et j'ai trouvé que l'idée que dont Julia m'avait parlé il y avait quelques mois déjà quand même, parce que c'était au mois de novembre ou d'octobre, je me souviens plus, enfin 1 ou 2 mois avant, je me suis dit que ça pouvait peut-être être adapté directement à ces formations des référents numériques. Donc c'est là, je vais pas dire qu'on nous a dit banco tout de suite, mais on nous a dit pourquoi pas, on nous a un peu donné carte blanche, et puis ben, en l'espace d'un week-end, on a commencé à produire quelque chose pour pouvoir le montrer et expliquer un petit peu ce que c'était, parce que j'avoue qu'on ne savait pas trop où on allait dans un sens, mais pour les gens qui travaillaient avec nous, c'était pire, c'est-à-dire qu'ils se demandaient vraiment où on allait, quoi. Mais
C'est un concept qui n'existait pas dans le monde de la formation du tout, même à l'étranger ou.
bah, j'en avais pas eu moi d'écho personnellement. On en reparlera tout à l'heure. Depuis, on a l'impression que ça émerge de partout parce qu'on avait des collègues qui. On a même eu l'occasion de faire tester le jeu par une collègue qui était déjà en train d'y réfléchir pour le créer en SVT justement. Donc elle était venue pour voir justement comment nous on avait adapté un petit peu ce principe d'escape game. Mais elle était déjà dans le concept de l'escape game pour ses élèves. Mais depuis, on a plein de contacts avec des gens qui nous contactent de partout et qui font des escape games, surtout en anglais malheureusement, je plaisante, mais surtout en langue, mais je pense que ça s'adapte plus facilement en langue que dans les autres disciplines. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, je pense. Julia voulait rajouter quelque chose, non?
Non, pas particulièrement. Peut-être juste. Enfin, je pense pas que forcément l'idée vienne de nous, mais je pense que quand les escape games ont commencé à émerger un petit peu dans l'éducation, c'était pas forcément sous forme d'escape game. Clairement, ça pouvait être des petites idées d'énigmes, de jeux énigmes, de révisions, etc. Donc ça, les idées étaient déjà rentrées. Et bon, après, l'escape game, c'est quand même assez démocratisé. On en a vu pointer dans tout plein de villes. Ça a commencé un peu à faire parler dans les journaux, etc. Et donc, bah, je pense pas qu'on soit les seuls à avoir eu l'idée, mais c'est vrai que peut-être qu'on a amorcé quelque chose au niveau de la formation. Et quand un professeur bah, cherchait un petit peu des infos sur les escape games dans l'éducation, il tombait peut-être assez rapidement sur ce que nous on avait construit, et c'est pour ça qu'on nous a contactés. Voilà,
Il y a eu peut-être beaucoup plus
on
de
est
bruit
parti
sur.
de rien en fait. On est parti de notre base à nous finalement, mais on n'est pas parti de choses préexistantes dans la formation. Voilà,
Oui,
on est
c'était
parti de
vraiment. Vous avez modifié un escape game classique par rapport à votre formation. Et justement, ça consiste à quoi, donc, cet escape game, par exemple, dans la formation pour l'instant, hein, puisque c'était votre point de départ.
Est-ce qu'on a le droit d'en parler? C'est ça le problème.
Sans donner les toutes
Non,
les
mais si on
ficelles,
peut.
mais.
Bah, l'idée, bon, c'est toujours des énigmes. Nous, le principe, c'était des énigmes, bien sûr, numériques. Donc, l'idée, c'est qu'on fait entrer les collègues, parce que ce sont des collègues, on a eu aussi des chefs d'établissement dans la formation, parce que c'était les référents numériques et les commissions numériques de l'académie, donc on avait un public assez large en fin de compte. Et donc on fait rentrer les gens dans une salle où ils ont simplement à leur disposition deux ordinateurs et deux tablettes, et ils doivent résoudre des énigmes. Alors c'est des énigmes qui font appel à l'utilisation soit de nouvelles applications pour certains, enfin on peut donner certains noms, principalement c'est Plickr, c'est Orasma qui sont relativement utilisés dans notre escape game, mais on a un petit peu de traitement de texte, on a un petit peu de tout, quoi. On a donc 12 énigmes numériques que les gens doivent résoudre. Le principe étant surtout qu'ils doivent collaborer, c'est-à-dire que dans la salle, on a une table centrale où ils doivent réunir les indices et pouvoir collaborer et travailler ensemble à ce niveau-là.
En fait, on s'était fixé un cahier des charges d'utiliser peu de matériel, parce que l'idée, c'était aussi que les collègues puissent réadapter ce jeu dans leurs établissements pour eux-mêmes par la suite former leurs collègues au numérique. Donc si ça nécessitait d'acheter tout un décor, tout un tas de matériel qui n'était pas disponible dans l'établissement, ça n'allait pas être réutilisé. Donc on a voulu faire un escape game avec très peu de matériel, avec aucune application payante, et que ça puisse être facilement transposable par les collègues pour le réutiliser avec les leurs.
Alors, moi, j'ai eu la chance de le faire, hein, cet escape game, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment très très original. Alors pour le coup, je connaissais la plupart des outils qui étaient présentés, et c'est bien normal puisque vous nous montriez ça lors d'une réunion de formateurs aussi au numérique, donc voilà. Mais on s'est quand même vraiment pris au jeu, c'est-à-dire que on n'allait pas apprendre comment utiliser ces outils, mais en tout cas, on a vraiment joué et le côté ludique pour le coup a vraiment fonctionné. Donc j'imagine que quand en plus on les découvre, quand on découvre Pliqueuse, quand on découvre Orasma, là l'effet il fonctionne carrément et ça prend vraiment tout son sens, quoi. Donc chapeau bas pour toute cette mise en place.
Bah, merci. Alors en sachant que c'est vraiment un outil pour découvrir justement ces outils, enfin découvrir ou les réutiliser, les réinvestir si on veut, si on les connaît, mais c'est surtout pour les découvrir, et que l'escape game en lui-même tout seul ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment par la suite avoir une formation sur l'outil lui-même, sur l'utilisation technique et sur l'utilisation bien sûr pédagogique qui va avec, quoi.
Bien sûr.
C'est pas réellement un escape game de formation, c'est plutôt un escape game d'entrée en formation, en fait, pour permettre aux collègues qui sont un petit peu réticents au numérique de manipuler du numérique par le biais du jeu, d'être d'y rentrer avec un petit peu l'appât du jeu finalement, et par la suite, justement susciter une petite curiosité qui va mener à un temps de formation un petit peu plus complet sur les outils qui ont été découverts pendant le jeu. C'est comme ça que nous on l'a conçu, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. On s'est rendu compte par la suite qu'on pouvait aussi faire l'inverse, c'est-à-dire faire une journée de formation, présenter les outils, et puis terminer une journée de formation avec l'escape game pour vérifier ce qui avait été compris et si les participants seraient capables de comprendre les détournements qu'on en a fait, au niveau de Plickers, d'Orasma. Mais on l'a construit dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt un jeu d'initiation, un jeu de découverte d'outils numériques.
D'accord. Et les retours ont forcément été... ont été bons, c'est ça, par des collègues ?
Dans l'ensemble, je veux dire, dans la majorité, oui. On a quand même eu quelques réticences, parce que on peut pas non plus plaire à tout le monde. Et puis, certains préfèrent des formations frontales, certains préfèrent des formations plus classiques. Et puis, c'est vrai qu'on a notre jeu a un petit côté déstabilisant, parce qu'on n'explique pas aux participants ce qu'ils vont faire. En fait, on leur dit qu'ils vont participer à un escape game, on leur explique les règles, mais on leur dit pas ce qu'ils doivent chercher. Le but, c'est de fouiller la salle, c'est de trouver les énigmes et puis ensuite d'en venir à ces outils numériques et de les découvrir. Mais ça en a déstabilisé quelques-uns qui sont parfois sentis mal à l'aise, et on peut le comprendre. Mais globalement, sur la grosse majorité, on a plutôt eu des retours positifs, oui, même des gens qui ont eu envie de s'y mettre, de le réinvestir, de le réutiliser, voire d'en recréer un pour leurs cours, pour leurs élèves ou pour leurs collègues de leur propre cru.
Moi, ce que j'ai trouvé... Pardon, vas-y, Patrice.
J'aurais tendance même à dire que très globalement, les gens ont apprécié. C'est-à-dire qu'on a eu quand même, il y a un peu plus de 200 sessions au total de Escabier, mais enfin d'Enigma, on a fait 200 sessions. Oui. Enfin, pas nous personnellement, on en a fait une bonne moitié, même largement. Mais sur donc 200 fois 10 personnes, sur 2000 personnes, on a, on va dire, une dizaine de personnes vraiment qui ont mal pris, enfin c'est même pas mal pris, mais qui ont une réaction négative. Mais c'est même pas par rapport au jeu lui-même, c'est-à-dire que moi, ma crainte, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que j'avais peur qu'il y ait un refus de certains collègues par rapport à l'approche qu'on en faisait dans un certain sens. Mais en réalité, c'est soit parce qu'ils étaient on leur imposait en fin de compte cette journée de formation, dans un sens, c'était plus dû à l'environnement qu'ils étaient, qu'ils avaient un côté négatif. Et voilà, c'était plus que le contenu ou que le jeu lui-même. Et les gens qui ne prennent pas, parce qu'on a vu quand même quelques collègues qui n'ont pas pris, c'est parce qu'ils prennent une certaine distance. C'est-à-dire que c'est pas par rapport au jeu lui-même, c'est comment je vais pouvoir l'exploiter. Moi, je l'ai vu dernièrement dans un IUT, là, je l'ai fait dans un IUT, et j'ai eu pas mal de collègues. Enfin, ils étaient nombreux, mais sur. La douzaine de personnes, j'en ai eu trois vraiment qui se sont mis en retrait, et tout simplement parce que ils venaient ici pour découvrir l'escape game, mais dans le but de le réinvestir dans leur cours. Et ils ont eu cette réflexion de dire, mais moi, comment je peux l'intégrer, comment je peux le réinvestir, et justement, ils sont sortis du jeu à cause de ça, quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de retour négatif, à part des certaines personnes, mais je pense que quoi qu'on leur propose à ces personnes, on aurait du mal. Voilà.
D'accord.
Alors, en tout cas, moi, j'ai eu la chance de le faire, donc je vous disais, et ce que j'ai vraiment trouvé très bien, c'est que justement, pour des gens qui ne connaîtraient pas les outils, il y avait aussi cette approche un peu empirique de découvrir l'outil et de chercher comment s'en servir, et ce qui est en fait une réalité quand on découvre des outils numériques pour enseigner ou dans nos métiers. En tout cas, moi, je fais partie d'une génération, quand je jouais aux jeux vidéo, quand j'étais petit, le premier truc que je faisais, c'est que j'allais pas d'abord passer des heures à lire le manuel avant de mettre le jeu dans le jeu, je voulais jouer tout de suite, quoi. Et j'allais apprendre le jeu vidéo tout seul. Et c'est un petit peu pareil pour les outils numériques. Maintenant, peut-être en vieillissant, ça s'agit, on va dire, on va quand même regarder un petit peu avant plutôt les modes d'emploi, si je puis dire. Mais la plupart du temps, on teste et puis on voit comment ça fonctionne, quoi. On a vraiment ce rapport un peu bac à sable, quoi, de l'outil. Et dans le jeu, on a retrouvé ça et c'était vraiment intéressant. Voilà.
Bon, je tiens à dire aussi que Guillaume et son groupe maintiennent toujours le record de 22 minutes 12.
Alors, ce que tu dis, c'est assez vrai, et je suis d'accord, moi je suis plutôt de ce type de personne ici à aimer manipuler et à pas vouloir m'encombrer avec un mode d'emploi, mais il y en a d'autres qui vont quand même rechercher, qui vont préférer avoir la notice, rechercher tout ça, et Enigma le permet aussi, puisque comme dans une méthode de pédagogie active, on va proposer des petits coups de pouce aux candidats, hein, comme dans un vrai escape game où vous avez forcément un suivi, hein, quand même de celui qui tient l'escape room, qui vous donne des petits indices, qui essaie de vous guider quand vraiment vous êtes sur la mauvaise voie. Et ben là, on va essayer de proposer des petits coups de pouce sur les applis si vraiment on sent que les participants ne comprennent pas comment elles fonctionnent ou galèrent vraiment à en comprendre le principe et l'usage. On va leur proposer un petit coup de pouce, un petit mode d'emploi très succinct pour pouvoir la prendre en main et pour pouvoir essayer de voir comment résoudre l'énigme avec cet outil.
Je voudrais justement revenir sur la connaissance de l'outil ou pas, parce que là, je viens de dire que Guillaume a le record de 22 minutes et il disait tout à l'heure qu'il connaissait les outils, qu'il connaissait tous les outils d'ailleurs du groupe, il connaissait tous les outils. On a longtemps gardé un record de 24 minutes avec un groupe qui ne connaissait ni Horasma ni Plickers. Et donc qui ont réussi, et sans coup de pouce, hein, je crois que c'était vraiment intuitivement, ils ont réussi à découvrir les outils à ce niveau-là, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça veut dire que même sans connaître l'outil, on arrive à bidouiller, à tâtonner et à exécuter le jeu. Et inversement, j'ai quelques exemples de collègues qui connaissaient bien l'outil et qui connaissaient trop, à la limite, l'outil. Et qui, comme nous, on a tendance à un petit peu les détourner, on va pas dire comment on utilise Plickers, se sont mal débrouillés, c'est-à-dire que pour eux, ils n'arrivaient pas à comprendre l'astuce, si vous voulez, pour atteindre pour trouver l'énigme, en fin de compte, pour résoudre l'énigme, quoi.
D'accord.
Donc voilà. Oui, vas-y.
Mais non, plusieurs fois, vous avez cité Enigma, mais vous n'avez pas trop expliqué ce que c'était Enigma.
C'est le nom de l'escape game, quoi.
C'est le nom du jeu.
C'est le nom du jeu.
Ensuite, bon, on est resté dans le monde de formation. Est-ce que vous avez essayé de maintenant face à, de transformer ça avec face à, aux élèves, toi, Julia?
Alors, moi, je vais avoir un essai bientôt, mais pas, enfin, ça n'a pas encore été fait par manque de temps, hein, parce que c'est quand même le dire, c'est un petit peu de temps de construire un escape game. Ça fait longtemps que j'en parle. Depuis qu'on a créé Enigma, j'ai envie de le tester avec les élèves. Alors, il y a quand même des difficultés qui se pose tout de suite, c'est le nombre d'élèves dans la salle. C'est-à-dire qu'un escape game, on peut difficilement le faire. Enfin, moi, j'ai 24 élèves, hein, je suis déjà chanceuse parce que 24, c'est pas énormément. Mais le faire à 24, c'est juste pas possible. Donc, il faut envisager de au mieux dédoubler le groupe. Mais si on peut faire encore plus et avoir encore moins d'élèves, 6-8, c'est quand même pas mal. Je voyais pas comment l'utiliser en classe au quotidien, à moins d'avoir un autre professeur avec moi pour lui-même recréer le jeu dans une autre salle et puis qu'on puisse dédoubler comme ça des groupes. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt le faire en séance de révision en fin d'année pour mes troisièmes qui passent le brevet et profiter du fait que malheureusement certains ne tiennent pas jusqu'à la fin de l'année les séances de révision une fois le conseil de classe passé et une fois que les bancs de l'école se vident un petit peu et d'avoir un groupe classe un peu réduit pour l'utiliser en révision. Je pense que ça se prête pas mal aux révisions, mener des petites quêtes, mener des petites recherches qui vont permettre de remobiliser des connaissances que les élèves sont censés avoir acquises dans l'année. Donc, je ne peux pas vous dire tout de suite comment ça va se passer avec les élèves, avec les miens du moins, mais d'ici, voilà, en plus, le projet n'est pas tout à fait fini d'être construit, mais d'ici 3 semaines, ils devraient l'avoir testé.
On a des retours de collègues qui le font avec leurs élèves, et généralement, enfin, je crois même que tous, c'est en séance de révision. C'est rarement en séance de découverte ou alors peut-être en anglais s'ils le font peut-être en séance de découverte, mais c'est surtout en séance de révision que les collègues le font. Surtout quand ce sont des escape games très travaillés avec je pense surtout en science, avec des expériences, des manipulations à réaliser. Là, vraiment, c'est des séances de révision. Alors souvent dans des périodes un peu particulières, je pense à la collègue des SVT qui était venue justement tester Enigma, elle l'a construit au moment de Noël, quoi. C'était au moment juste avant les vacances de Noël, elle a fait une séance de révision de cette façon-là. Et le gros problème qu'on a, c'est justement l'effectif. C'est-à-dire qu'avec une classe de 30, c'est pas possible, quoi. En règle générale, on fait ça en groupe. Même le cas de la collègue des SVT, c'était un groupe de 14 qu'elle avait divisé en deux escape games en même temps, en synchrone. Donc voilà, on est obligé de réduire l'effectif pour que ça fonctionne, quoi.
Alors, on a quand même des collègues qui l'ont tenté en introduction pour. On a un collègue qui, après avoir testé Enigma, a eu envie de réviser le principe de l'escape game pour introduire un EPI et qui voulait introduire son EPI autour d'un tableau et qui a fait découvrir les personnages à l'intérieur du tableau par le biais de l'escape game. Donc, c'est aussi possible en introduction, mais c'est vrai quand même que ça se prête très très bien à une séance de révision et autour du jeu pour remobiliser et vérifier des compétences et des connaissances acquises précédemment.
Beaucoup le transforment aussi pour faire une découverte de l'établissement. Pour les élèves entrés en sixième, par exemple,
ah oui.
C'est une sorte de jeu. Alors ça se transforme plus facilement en jeu de piste dans un certain sens qu'un vrai escape game, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont proposer aux élèves de découvrir l'établissement par des énigmes successives et qui vont être obligés de, qui vont les forcer à voyager de salle en salle, quoi. L'idée est...
Parce que dans votre cas là, vous...
Pardon, vas-y. C'est un modèle qui s'adapte quand même à beaucoup de situations. Nous, on n'avait pas toutes ces idées. Comment on a ces idées maintenant, c'est parce qu'on l'a utilisé en formation et on a proposé en formation du PAF aux collègues de les accompagner pour créer eux-mêmes leur propre escape game en petite équipe. Et puis, c'est là que les idées ont émergé. Et on a des collègues qui, effectivement, ont proposé des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, nous, au départ. En faisant Enigma, nous, on avait notre propre but de formation numérique. Mais ça s'adapte finalement à tout plein de situations scolaires ou non, hein, d'ailleurs, qui permettent de travailler tout en s'amusant finalement.
Et j'aurais tendance à dire que le stade ultime, c'est de faire construire l'escape game par ses propres élèves. Certains collègues s'y sont lancés. Et nous, on a pu assister justement, enfin, on a pu tester l'escape game réalisé par deux collègues, un en maths et un en anglais. qui ont fait un travail, j'aurais tendance à dire formidable, digne des pros, parce que non seulement il y a la construction des énigmes, mais il y a eu toute une construction des décors. Ils ont eu l'occasion dans leur établissement d'avoir deux petites salles réservées, enfin quand je dis petites, elles sont un peu même plus grandes que je l'imaginais initialement, réservées à leur escape game, et donc ils ont à demeure deux salles d'escape game dans leur établissement, créées par les élèves et avec un décor digne des escape games de pro. Quoi.
Super.
Donc si vous avez des conseils, je sais pas si c'est quelqu'un qui veut se lancer justement dans cet escape game, qu'est-ce que vous lui conseillerez?
Faire le scénario.
Avant de faire le scénario, je pense qu'il faut déjà en avoir testé un. Ouais. Ça me paraît être très important, que ce soit un escape game pédagogique d'un collègue ou que ce soit dans une escape room privée près de chez lui. Je pense qu'il faut l'avoir testé, il faut avoir vécu un petit peu l'expérience pour comprendre comment on le vit et qu'est-ce qui est attendu. Parce que c'est vrai que, comme on vous le disait au début, quand on a proposé l'idée aux collègues pour les formations des commissions numériques, ils se sont demandé un petit peu d'où nous venaient ces idées farfelues. Ils ne comprenaient pas trop où on voulait aller parce qu'ils n'avaient pas vécu ce jeu. Alors Patrice, lui, n'en avait pas testé, mais il a très vite pigé où je voulais en venir et ça a très bien fonctionné malgré ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin de vivre l'expérience pour pouvoir ensuite l'adapter à un contexte pédagogique. C'est le premier conseil. Et après, comme disait Patrice, je vais te laisser la parole, du coup, commencer par le scénario, c'est ce qu'on a fait en formation.
Oui, on conseille aux collègues de créer le scénario, c'est-à-dire de trouver une idée originale et qui prête à avoir des énigmes dans un certain sens. Et une fois qu'on a trouvé ce scénario, ça correspond au scénario, c'est pourquoi les gens sont enfermés, donc trouver la cause de l'enfermement. Et puis, à la fin, c'est de se dire tout de suite qu'est-ce qui leur arrive, comment ils sortent, et qu'est-ce qui leur arrive s'ils ne sortent pas. Alors nous, dans notre cas, on n'avait pas ce scénario d'échec, puisqu'en fin de compte, tous les participants à Enigma gagnent. Dans le sens où, au bout d'une heure, comme on veut que les collègues aient tous vu tous les outils qu'on leur propose, ils gagnent tous à la fin. C'est-à-dire que là, il y a un facteur humain qui est le maître du temps, qui est très très important. Donc, en règle générale, même toujours dans les formations, ce qu'on conseille aux collègues, ce qu'on propose aux collègues, c'est de monter leur scénario, de trouver le point d'entrée et le point de sortie. Et puis après, l'idée, c'est en fonction des notions que l'on veut faire passer. Donc soit, nous c'était le cas, c'était les outils, mais ça peut être des notions de connaissances qu'on veut faire passer, à ce moment-là, de trouver les différentes énigmes qui vont venir s'imbriquer à l'intérieur de ce scénario. En gardant à l'esprit surtout qu'il ne faut pas que ça soit trop linéaire, parce que si vous faites quelque chose de linéaire, ça va être plutôt la chasse au trésor dans un sens, c'est-à-dire qu'une énigme A donne la solution pour l'énigme B, enfin donne un indice pour une énigme B, etc. Et donc là, on va avoir quelque chose de linéaire, ça veut dire que l'ensemble du groupe va travailler d'énigme en énigme, et donc là, on va avoir un souci au niveau même de l'effectif, c'est-à-dire que si vous mettez 10 élèves sur une même énigme, ce n'est pas concevable. Donc l'idée, c'est de réussir à construire un scénario avec les énigmes qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui, en fonction du temps qui passe, on a grosso modo le même nombre d'énigmes disponibles pour que les groupes se répartissent dans la salle.
D'accord, oui. Donc il y a vraiment tout un aspect scénario qu'il faut bien avoir passé.
C'est très important, oui, tout à fait. Dans les formations, ils passent grosso modo une demi-journée à la création du scénario et à la répartition des énigmes. Après, le reste, c'est... je ne veux pas dire que c'est du... C'est peanuts, mais...
C'est vraiment ce premier temps de formation qui est le plus important, et on le constate. Après, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile quand on sait où on va. Ce que Patrice n'a pas précisé, mais qu'il répète d'habitude très souvent et qui est très, très important, parce que nous, on s'est fait avoir quand on a fait notre escape game, c'est une fois qu'on a ce scénario, de passer tout de suite à l'organigramme, c'est-à-dire de se créer un petit schéma avec justement ces imbrications résolution d'énigmes, puisque comme c'est imbriqué, ça devient tout de suite un peu complexe. Donc, de savoir cette énigme-là, qu'est-ce qu'elle permet d'obtenir, qu'est-ce qu'elle va débloquer, qu'est-ce qu'elle va ouvrir, vers quelle autre énigme elle va nous emmener, et puis de se faire ce petit schéma fléché avec telle énigme à telle énigme, à telle, amène à telle solution. Parce que quand on a construit le nôtre, on s'est rendu compte qu'on avait fait une grosse erreur au tout début, avant de le faire tester par des participants. On avait fait une boucle, c'est-à-dire qu'on demandait à un moment du jeu un élément qui ne pouvait arriver qu'après, parce que enfin voilà, ce qui permettait d'obtenir cette solution n'était pas encore débloqué. Le jeu était impossible. Enfin, on ne pouvait pas le réussir. Donc ça, on ne s'en serait pas rendu compte si Patrice n'avait pas eu l'idée de faire un organigramme, un schéma fléché. Moi qui suis un peu de formation littéraire, les organigrammes, ce n'est pas du tout mon truc. Je n'en aurais jamais eu cette idée. Et Patrice, qui lui est plus scientifique, a eu cette bonne idée et qui nous a permis de mettre le doigt tout de suite sur cette grosse, grosse, grosse bêtise. Donc si vraiment on peut donner un conseil... Donc jouer, établir un scénario et ensuite essayer de faire un organigramme fléché avec les éléments qu'on attend, qu'est-ce qu'on va découvrir, quel code, à quel moment, quelle clé, etc. pour se mettre dans la tête clairement l'organisation du jeu et voir qu'il n'y a pas de faille dans le scénario. En fait.
Sachant que l'organigramme, c'est en plus un point de repère perpétuel, c'est-à-dire que quand vous ne savez plus, enfin surtout au début, le jeu, on ne l'a pas en tête, maintenant nous, j'avoue qu'on l'a en tête, on le fait doigt dans le nez, mais quand on n'a pas le scénario justement en tête, ça permet d'avoir un point de repère perpétuel sous les yeux. Quoi. Donc on peut savoir, ils en sont là, il faut absolument qu'ils finissent. Ça nous permet de voir aussi les énigmes qui sont autosuffisantes, qui ne dépendent pas d'autres, etc. Donc où on peut laisser les joueurs, les participants rester un petit peu plus longtemps sur ces énigmes-là s'ils ne les trouvent pas. D'autres par contre, comme elles sont imbriquées, on sait très bien que s'ils ne trouvent pas cette énigme, il faut absolument qu'ils la trouvent pour pouvoir débloquer. Donc on sait à quel moment il faut les débloquer, etc. Donc ça sert aussi de point de repère pendant le jeu lui-même. Et je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus quoi.
Donc un bon escape game, logiquement, il se déroule sans personne, c'est bien ficelé, le formateur est juste observateur presque.
Ouais, grosso modo, oui, tout à fait. C'est-à-dire que il ne faut pas que non plus que les énigmes soient trop complexes et qu'on ait nécessairement besoin d'indices pour avancer. Bon, on le fait, il y en a toujours. Les escape games où on a, enfin les séances d'Enigma qu'on a faites où on n'a pas du tout donné d'indices existent, mais elles sont très rares. Après, c'est vrai qu'aussi avec l'habitude, on a des fois tendance aussi à donner des petits indices ou des petites indications plus que des indices à l'oral, plus qu'en donnant le coup de pouce qu'on avait préparé initialement dans un certain sens. Mais c'est vrai que normalement, un bon escape game devrait se dérouler sans avoir besoin de donner de coup de pouce. Sauf qu'on a toujours des dérives pas possibles, je veux dire, des trucs auxquels on n'a pas imaginé. Parce qu'il y a deux rectangles avec la même couleur, ils vont faire un lien entre les deux rectangles avec la même couleur et ils vont partir sur une interprétation qui n'est pas du tout la bonne. Quoi.
Ouais. On a fait tellement de sessions d'Enigma qu'on pourrait se dire, oui, bon, voilà, ça va, ils ont compris, il y en a marre, tout ça. En fait, non, enfin, c'est un perpétuel renouvellement, c'est-à-dire qu'avec des participants différents, on va avoir une expérience différente et nous, en tant que maître du temps, on va se rendre compte que il y a autant d'expériences de jeu qu'il y a de participants. Ils ne vont pas tous avoir les mêmes idées, que certains vont faire des liens entre des choses qu'on n'aurait pas du tout envisagé au départ, que certains vont bloquer sur des choses qui nous paraissent faciles. Enfin, voilà. On a essayé avec les coups de pouce
d'anticiper
un petit peu tout ce qui pouvait être bloquant, tout ce qui pouvait être délicat, mais on n'avait pas imaginé que certains esprits pouvaient être encore plus tortueux que les nôtres.
Très bien, en tout cas ça donne envie d'y participer,
bon, ouais,
d'en créer même.
Bon, et à quand le transport de votre escape game dans toute la France, dans toutes les académies, exporter le concept, tout ça quoi.
Bah, on le fait.
Bon, super.
C'est vrai déjà. C'est pas arrivé chez nous.
On a fait quelques voyages cette année dans les académies pour exporter un petit peu l'outil, soit tel quel, soit pour le proposer à des collègues de la DAN ou du Canopé pour qu'ils envisagent de recréer le leur. On en a fait quelques-unes.
D'accord. Super. Et si on veut avoir justement des exemples d'escape game, qu'est-ce que où c'est qu'on cherche, où c'est qu'on fouille sur le net?
Alors, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on a proposé une formation au PAF pour les collègues de l'Académie de Créteil pour qu'ils créent leur escape game en étant accompagnés. À l'issue de ces formations, on a pu ré récupérer les travaux de ces groupes hein, qui les ont généreusement mis à disposition de leurs collègues eux-mêmes. Donc, Patrice a créé une plateforme sur laquelle ces escape games, pas tous, parce qu'on les a pas tous récupérés, on en a
Malheureusement, oui.
récupéré certains. Je pense qu'en cette fin d'année aussi, on est tous très chargés et donc les collègues n'ont pas tous eu le temps de nous remonter les documents qui sont parfois peaufinés après la formation. On a récupéré certains exemples d'escape games créés par les collègues dans différentes disciplines. Ils sont tous disponibles sur le site escape.nep.fr.
OK, super.
En sachant que bah, grâce au canopé de Beauvais, je crois, si je dis pas de bêtises,
Oui, tout à fait. Donc on a.
on a eu des personnes qui nous ont contactés via Twitter et dessus, il y a déjà sur cette plateforme deux autres escape games qui ne sont pas du tout des escape games. D'ailleurs, il faut que je change une info sur le blog. Deux escape games qui ne sont pas des escape games que nous avons réalisés pendant les formations du PAF de Créteil, quoi. C'est-à-dire, c'est d'autres personnes venant d'autres académies qui nous communiquent leurs escape games.
En
C'est
tout
ça,
cas,
à la base,
on.
cette plateforme, c'était pour réunir les
Le
réalisations
partage.
de nos stagiaires, mais finalement, on s'est dit pourquoi pas l'ouvrir et partager tous ceux qui veulent bien partager leur travail autour des escape games dessus. Donc voilà, si vous avez des auditeurs qui ont créé des escape games et qui ont envie de les partager, on sera ravis d'accueillir leur travail.
En tout cas, on remercie le canopé de Beauvais, hein. C'est grâce à lui, en tout cas, que j'ai pris connaissance de votre travail. Guillaume?
Et Guillaume, il vous en
On l'a
avait même
perdu.
pas parlé. Celui qui a
Maintenant,
oublié quelque
c'est.
chose.
On
On
a
a perdu.
perdu. C'est. Bon, on a perdu. Hein.
Ah, on a perdu
Non,
Guillaume.
c'est le canopé de Beauvais qui nous a fait, en tout cas, de connaissance de lui. De votre travail. Ben voilà, on va finir là-dessus. En tout cas, est-ce que si on veut en savoir un peu plus, vous, sur votre travail, donc on a escapegame.enep.fr. Et si on veut vous
Oui.
contacter plus personnellement, comment peut-on faire? C'est quoi le mieux?
Bon, Twitter, ça peut être pas mal.
Twitter ou l'adresse
Ou
académique.
l'adresse académique, oui.
Bah
On
donnez
vous
votre
laissera
Twitter
nos
alors.
coordonnées pour les ajouter à la vidéo. Oui, Twitter, c'est un bon moyen de communiquer, c'est un bon moyen d'échanger. Les adresses académiques aussi. On a eu beaucoup de contacts suite à des petits articles des revues de l'éducation. Voilà, on reste disponible pour répondre aux questions. Enigma est aussi disponible sur la plateforme dont on parlait. Mais on reste bien sûr disponible pour les collègues, pour échanger, pour expliquer si besoin, pour conseiller aussi. Voilà. On va facilement répondre aux questions qui nous sont posées. On l'a déjà fait et on le refera.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, j'ai Guillaume qui nous a quitté un petit peu parce qu'il y a des petits soucis avec ses enfants, je crois. Voilà.
D'accord.
Qui hurle.
Le
Voilà.
pauvre, je compatis pleinement.
Voilà. En tout cas, je vous remercie en tout cas
Voilà.
d'avoir accepté l'invitation. Hein.
Merci à vous aussi
Voilà.
d'avoir invité.
Et bonne continuation. Et j'espère que vous viendrez dans notre coin sur Lyon et aux alentours. Moi, je serais curieux de participer
C'est
à.
prévu, c'est
Ah
prévu.
bon,
On
c'est prévu sur
sera
Lyon, c'est vrai?
à
Lyon,
Ah,
23 juin.
23 juin, oui.
23 juin. Ah tiens. Bon, mais faut que je regarde cette date-là alors. Ok, ben super.
On peut demander, si vous êtes disponible, on peut peut-être demander à vous intégrer à ce petit temps de formation qui se passera à l'atelier Canopée.
Ah d'accord, ok. Très bien. Ok, super. Merci à vous en tout cas.
Ah, pas de quoi.
Merci également. Merci pour
Bonne
l'invitation.
soirée.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir, bonne soirée.